arbres menacés d'extinction. On ne résoudra pas la crise climatique sans résoudre la crise de la biodiversité, titrait Libération il y a 2 jours, le 7 septembre 2022. Effectivement, des crises biologiques, notre planète Terre en a connu un certain nombre au cours des 500 derniers millions d'années. On parle de grandes crises biologiques ou de crises de biodiversité. Elles sont au nombre de 5 répertoriées au cours des temps biologiques. Finalement, qu'est-ce qu'une crise biologique ? Une crise biologique, pour un géologue, c'est un événement relativement bref à l'échelle de la planète Terre. Quand je dis bref, pour un géologue, c'est quelques millions d'années. Pour rapporter ça, évidemment, à l'histoire de notre planète Terre. C'est un événement bref qui va toucher toute la planète et qui va conduire à l'extinction d'au moins 75% des espèces de notre planète, qu'elles soient d'ailleurs animales ou végétales. Dans les terres, sur la planète, sur les continents, dans les océans. Et la dernière crise, vous la connaissez tous, c'est la plus célèbre d'entre elles, son événement était il y a à peu près 65 millions d'années, c'est la crise de l'extinction des dinosaures, avec sans doute pour origine l'impact d'un météorite au niveau de la péninsule du Yucatan, au niveau de l'Amérique du Sud. Et puis il y a eu d'autres crises qui ont été bien plus importantes, hein, la crise Permien-Trias, à peu près 250 millions d'années, a conduit à près de 95% d'extinction de la vie sur notre planète. Alors pourquoi on parle de crise ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, on parle aussi de crise. Certaines publications scientifiques révèlent que les espèces de vertébrés reculent de manière massive sur la planète Terre aujourd'hui, partout sur la planète, et on vit de notre contemporain une grave érosion de la biodiversité, et qui ont des conséquences importantes pour les écosystèmes, des impacts écologiques, des impacts économiques, mais aussi sociaux majeurs pour notre planète. Alors, actuellement, la perte de la biodiversité, les changements dans l'environnement qui y sont liés, sont extrêmement rapides et plus rapides qu'à aucune autre période de notre, de notre ère, c'est-à-dire de l'humanité. Et si la disparition des espèces, comme je l'ai montré, fait partie du cours naturel de l'histoire de notre planète, c'est pas nouveau que des espèces disparaissent. Les espèces disparaissent, apparaissent de manière parfois brutale. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que l'origine de la disparition, de la vitesse de disparition des espèces est liée à l'activité de l'homme, qui en a accéléré profondément le rythme d'extinction. Il est actuellement environ au moins de 100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel d'extinction, estiment les scientifiques, soit un rythme sans équivalent depuis la dernière grande crise, il y a 65-66 millions d'années, qui a mené à l'extinction des dinosaures, à tel point qu'aujourd'hui, on parle de sixième crise biologique, sixième crise de la biodiversité. Et c'est l'IPBES, c'est une plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques, on parle d'ailleurs parfois de GIEC, de la biodiversité, qui a mis en évidence, entre autres en 2019, la réalité de cette sixième crise d'extinction des espèces sur notre planète, ses causes, mais aussi ce qu'il faudrait envisager comme changement dans notre rapport à la nature, dans notre rapport à la biodiversité, les changements à initier pour sortir de cette crise. Alors, dans un rapport qui a été publié le 11 juillet, ces experts estiment, et je cite, que cette crise est étroitement liée à la manière dont la nature est valorisée dans les décisions politiques et économiques. Pour faire face à cette situation, les scientifiques appellent à intégrer d'autres manières de voir le monde à nos processus de décision. Et je cite à nouveau, « Inverser l'impact humain sur la biodiversité requiert un changement systémique et transformateur, estime-t-il. » Alors, comment changer notre manière de voir le monde? Comment changer notre manière de percevoir la biodiversité? Ça interroge finalement la valeur que nous pouvons peut-être donner à cette biodiversité. On entend parfois dire qu'on ne défend la beauté du monde que si on la rencontre. Et si les arts étaient une clé de lecture du monde complémentaire à la science? Et si les arts, la culture, étaient une façon joyeuse de communiquer la science? Les arts et les sciences peuvent sembler parfois se construire par des approches qui nous semblent radicalement différentes, voire même opposées, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas là tout simplement d'apparences trompeuses? Car les principes et les démarches scientifiques et artistiques ont finalement pour origine commune une curiosité sans limite pour le monde ou les mondes qui nous entourent. Alors, pour aborder ces sujets passionnants, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un grand spécialiste de la biodiversité, Philippe Grand-Collat, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vos travaux sont dédiés à la systématique et à la biologie évolutive des insectes, l'exploration du vivant via des approches comparatives et phylogénétiques. Vous allez pouvoir nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Vous avez travaillé dans un laboratoire d'éthologie et biologie de l'évolution de l'Université de Rennes 1, je crois, qui était associé au CNRS et puis rejoint un laboratoire de systématique et évolution du Muséum. Vous êtes aujourd'hui directeur adjoint scientifique de l'Institut écologique et environnement du CNRS et chercheur à l'Institut de systématique évolution biodiversité, un laboratoire qui est commun CNRS, Muséum national d'histoire naturelle, Sorbonne Université, de l'école pratique de hautes études et de l'Université des Antilles, d'ailleurs que vous avez créé vous-même cet institut. Merci beaucoup Philippe Grand-Collat de votre présence sur ce plateau et avec notre assemblée. Juste peut-être avant de plonger dans notre premier sujet, est-ce que vous pourriez expliquer pour les non-spécialistes de quoi s'agit-il quand on étudie la systématique ?
Merci d'abord pour cette introduction et merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, la systématique, c'est tout simplement la science qui établit des systèmes de relations de parenté entre les organismes vivants. Donc ça permet à la fois de les nommer, de les distinguer, ce que l'on utilise tous les jours en dénommant un arbre, un insecte. La science le fait avec des règles qui permettent qu'il n'y ait pas de malentendus entre les personnes dans le monde qui veulent désigner un organisme. Et cette discipline qui est relativement ancienne, hein, puisqu'elle a commencé avec les grands naturalistes presque à l'époque de la Renaissance, cette discipline s'est inspirée de la biologie d'évolution à partir du 19e siècle. Et aujourd'hui, bien sûr, elle reconstruit les arbres de relations de parenté, beaucoup d'ailleurs basés sur des critères moléculaires, hein, qui permettent d'avoir une vision non seulement organisée du vivant, mais aussi de comprendre la manière dont il s'est diversifié, puis la manière dont il continue à évoluer. Donc effectivement, le laboratoire que j'ai créé, qui se situe en particulier au Jardin des Plantes, au Muséum, avait le grand avantage de pouvoir disposer des bases de connaissances que représentent les collections nationales d'organismes, hein, donc le plus grand herbier du monde, une des plus grandes collections d'insectes du monde, ainsi de suite, ce qui permet d'avoir sous les yeux un référentiel extraordinaire de ce qui existe, sans pour autant oublier qu'il existe en fait 3 ou 4 fois plus d'organismes dans le monde d'aujourd'hui qui ne sont pas connus. Voilà. Malheureusement, l'ensemble de cette diversité, comme il vient d'être dit, est dans une situation assez dramatique. Et pour effectivement comprendre dans quelle crise nous nous trouvons, il est indispensable d'avoir connaissance des fondamentaux qui concernent la biodiversité, la diversité du vivant, et puis essayer de l'apercevoir effectivement par tous les moyens, qu'ils soient scientifiques ou artistiques. Alors, d'abord, peut-être parler du mot biodiversité.
Et si je peux, pour rentrer, rythmer notre conversation, le premier aspect, comprendre justement cette biodiversité. Je lisais hier soir sur le site de votre laboratoire les travaux de cet institut gouvernemental sur la biodiversité. Et je lisais ceci, réunis à Bonn début juillet 2022, ces experts ont présenté leur nouveau rapport sur la biodiversité. Et on y apprend notamment que 3 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire 45% quand même de la population mondiale, dépendent des prélèvements d'espèces sauvages, et 2/3 des personnes les plus pauvres dans le monde dépendent justement directement du prélèvement de ces espèces sauvages. Alors, la biodiversité, c'est la comprendre et la percevoir, parfois on la perçoit comme étant une grande collection d'individus, une collection. C'est vrai que dans cette grande collection, on pourrait se dire que si on perd un élément de la collection, finalement, il n'y a rien de dramatique à ça. Et si on perçoit cette biodiversité, vous allez nous l'expliquer, Philippe Grand-Collat, comme étant un grand réseau interconnecté, on comprend que si on casse cette chaîne à un endroit, on crée des dommages irrémédiables. Et donc, en quoi, Philippe Grand-Collat, est-il peut-être si nécessaire, justement, de connaître cette biodiversité de notre planète? Et pourquoi est-ce aussi parfois difficile? Et finalement, la question qu'on posait tout à l'heure, quelle valeur donne-t-on, ou faudrait-il que nous donnions à cette biodiversité pour mieux la prévenir?
Tout à fait, tout repose déjà sur un mot, biodiversité. Alors ce mot aujourd'hui, il fait florès, hein, on l'entend dans beaucoup de médias. C'est un mot qui est devenu commun, mais pour autant, en fait, je pense qu'on n'a pas tous vraiment conscience de sa signification. Ordinairement, on parle plutôt de la nature ou de l'environnement, hein, mais déjà, quand on dit nature-environnement, on place une distance entre les humains et le reste de l'univers, hein, une distance, en fait, qui n'est pas placée comme expliquée une personne ce matin dans d'autres cultures, dans lequel l'homme se définit comme partie prenante de la nature. On peut parler du vivant aussi, hein. On a parlé des sciences du vivant, on a parlé notamment des sciences du vivant au moment où On a vu les grands progrès de la génétique, de la médecine au cours du XXe siècle. Mais quand on parle du vivant, finalement, on fait référence à ce qui est relativement commun à toutes les espèces. Là, j'ai juste mis trois exemples. L'ADN, tout le monde connaît le support de l'hérédité. On en est même à dire « c'est dans mon ADN » pour dire qu'une caractéristique est vraiment nous est propre. Une autre caractéristique du vivant, c'est qu'il est, il est lié à la structure de la cellule. Il y a des organismes unicellulaires qui sont petits, mais il y a également des organismes comme nous dans lesquels on a plusieurs milliards de cellules. Et puis tous les organismes vivants se reproduisent et ils se développent. Donc en règle générale, dans toutes ces sciences du vivant moderne, on a considéré plutôt dans les grandes avancées technologiques ce qui était commun à toutes les espèces, et on a oublié que par ailleurs elles différaient énormément par plein d'aspects. Et il y a une prise de conscience dans les années 80, dans le monde scientifique, en fait, que quand on faisait avec des problématiques d'environnement, quand on essayait de regarder autour de soi, en fait, ce qui devenait finalement important, ce n'était pas le commun de ces espèces, le commun que l'on connaît aujourd'hui de mieux en mieux, c'était ce en quoi ils différaient. Et donc, en anglais, un certain nombre de scientifiques ont défini la diversité biologique, biological diversity, et puis ils ont essayé de contracter le terme pour le rendre un petit peu plus parlant. Donc, ils ont créé le terme biodiversité, biodiversity en anglais, et ça a été consacré notamment dans un colloque qui s'est tenu à l'Académie des sciences des États-Unis dans les années, fin des années 80. Donc, à partir de ce moment-là, ce terme s'est répandu, et il s'est répandu d'autant plus qu'il a même fait l'objet d'une convention. Vous avez sans doute entendu parler du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 92, et à cette occasion, en fait, il y a un certain nombre de pays qui se sont réunis, précisément parce qu'il y avait une prise de conscience de l'importance de cette diversité du vivant. Il fallait la considérer, elle était sous-jacente à toutes les problématiques de société qu'on voyait ici ou là. Et de fait, ce congrès comportait des diplomates, des juristes qui ont même créé une définition qui est devenue un accord juridique. Et un accord juridique qui a été signé, non contraignant, par environ 200 pays. Aujourd'hui, les signatures sont faites au gré des années. Aujourd'hui, on a environ 200 pays qui sont signataires de cette convention, et c'est cette convention qui continue à animer des débats entre les pays pour savoir comment régler la question de l'environnement. Des débats, par exemple, qui vont se tenir à nouveau lors de la conférence des parties, ce qu'on appelle les COP, en abrégé. La prochaine conférence des parties devait se tenir sur la biodiversité depuis 2 ans en Chine, et malheureusement, du fait de la situation sanitaire dans ce pays, elle se fera sous présidence chinoise à Montréal au mois de décembre. Et donc, cette convention de la diversité biologique, vous voyez, non seulement elle a un contenu scientifique, mais en plus, elle est peut-être pas contraignante, mais elle oblige malgré tout les pays à considérer la diversité du vivant, et elle la définit de manière très simple. C'est la diversité qu'on trouve à l'intérieur des espèces, entre les espèces, et puis entre les systèmes d'espèces, donc les écosystèmes, entre une forêt, un désert, une prairie, un marécage. Donc finalement, la biodiversité, c'est simplement résumer dans un seul mot tout ce que l'on peut observer différent entre le vivant sur Terre. Et on en a des appréhensions nous-mêmes très familières. Quand on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est une vision finalement de la biodiversité. On se rend compte que pour avoir une alimentation équilibrée, on ne peut pas baser son alimentation sur un seul organisme vivant. On oublie très vite d'ailleurs que 5 fruits et légumes par jour, ça suppose à peu près 5000 organismes vivants qui travaillent en arrière-plan. Les bactéries, les milliers de bactéries qu'il y a dans le sol, les antagonistes des ennemis de ces légumes ou de ces fruits, etc. Donc en fait, on dépend en réalité d'une quantité gigantesque d'organismes dont on ne perçoit pas toujours la présence, soit parce qu'ils sont microscopiques, soit tout simplement parce qu'on n'y prête pas attention. Alors, pour autant, là, on vient de parler de la définition scientifique ou juridique du terme, mais ce terme, quand on l'évoque auprès d'une personne ou d'une autre dans la rue ou au gré d'une manifestation, en fait, si on cherche à savoir ce qu'il évoque, souvent il évoque plutôt des images un peu fantasmées, une baleine, un insecte, un beau papillon, un grand arbre. Biodiversité, ça évoque plutôt ce genre de représentation. Ça évoque aussi peut-être un peu de fragilité, puisqu'on parle de la crise de la biodiversité, de la crise du vivant. Mais en règle générale, c'est plutôt une image positive, on va dire. Mais la biodiversité, c'est aussi cela, c'est aussi des champs cultivés, des organismes microscopiques dont certains peuvent être momentanément pathogènes, un moustique vecteur de maladie. Vous voyez, il y a de la biodiversité aussi qui a disparu et qui a été minéralisée, qui se trouve aujourd'hui connue à l'état de fossile, comme ici. Et puis il y a des espèces qui ne sont pas très sympathiques, soit parce qu'elles sont venimeuses ou parce qu'elles sont commensales involontaires de nos populations humaines. Et puis bien sûr, au sein de la diversité biologique, il y a aussi nous, les humains, une espèce de primate qui s'est diversifiée, qui aujourd'hui du globe terrestre de manière un petit peu plus envahissante que les autres espèces vivantes. Alors, comme on vient de le dire, la question de parler de biodiversité, c'est très souvent essayer de lui donner une valeur. On parle de la valeur de la biodiversité parce que dans notre esprit humain, quelque part, considérer quelque chose, ça revient à lui donner une valeur, à lui donner une importance. Un objet, un paramètre, un état n'est pas, ne nous semble pas important ou on ne lui donne pas de valeur et on ne le considère pas. Alors il y a une réflexion éthique derrière tout ça, il y a des philosophes de l'éthique, hein, c'est une branche de la philosophie, ont essayé de donner des valeurs à la diversité du vivant. Et même au sein des populations humaines, vous savez, depuis plusieurs siècles, il y a évidemment une progression de l'éthique, hein, qui s'est faite pour prendre en compte la diversité des humains, mais aussi la diversité, même à l'intérieur d'une même population humaine, des enfants, des femmes, des hommes, de tous les humains, quel que soit leur statut. Et cette démarche a progressé jusqu'au point où on en est aujourd'hui, encore très imparfait, et cette démarche, pour le moment, est purement anthropocentrique, c'est-à-dire que cette démarche de valeur, en règle générale, dans l'esprit commun, ne concerne pas le reste du vivant. Et pourtant, on peut donner à la diversité du vivant plusieurs types de valeurs. Alors, il y a d'abord une valeur de service. On parlait tout de suite des 5 fruits et légumes. Évidemment, cultiver des fruits et légumes, c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir des organismes dont on puisse se nourrir. Mais il y a aussi bien d'autres valeurs de service qui nous semblent assez évidentes. Hein. On le sait tous, la végétalisation des villes détruit les îlots de chaleur. Un certain nombre de prédateurs permettent de réguler des populations d'organismes. On a également des organismes qui nous permettent de lutter contre les maladies. Par exemple, les antibiotiques sont des substances de défense émises par les champignons, hein, qui ont été découvertes et utilisées à notre avantage. Donc, beaucoup de services différents qui peuvent être donnés à la biodiversité. C'est une conception assez utilitariste qui ne fait pas forcément la place à tous les organismes qu'on ne connaît pas ou dont on ne connaît pas forcément le rôle et qui pour autant sont importants. Valeur d'option, c'est un concept aussi intéressant, hein, tiré des théories économiques. Il s'agit là de toutes les valeurs que peut avoir la biodiversité mais qui ne sont pas connues aujourd'hui. Toutes les fonctions que peut avoir la biodiversité qui ne sont pas connues aujourd'hui, soit parce que le monde évolue et ce qui est utile demain ne l'est peut-être pas encore aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne connaît pas tous les organismes vivants. Donc c'est une excellente raison aussi de préserver le maximum de biodiversité, puisqu'on va préserver en cela des espèces qui nous seront peut-être très utiles seulement demain. Et puis enfin, il y a un type de valeur qui est beaucoup plus difficile à considérer pour l'esprit humain, c'est ce que l'on appelle, les philosophes appellent la valeur intrinsèque. Que vaut une espèce vivante si les humains n'étaient pas présents? Ça, c'est une question qui peut plonger dans des abîmes de perplexité la plupart de nos concitoyens. Et pourtant, effectivement, hein, on peut considérer que nous n'avons pas un droit absolu sur le reste du vivant. Alors, le paradoxe de cette réflexion sur la valeur, qui est une réflexion éthique à la base, c'est qu'elle induit très souvent des conséquences négatives, hein, c'est-à-dire la monétarisation. Si on parle de valeur, on a envie de la chiffrer. Et là, on risque de faire des choix en fonction des chiffres que l'on va dégager. Évidemment, ces choix peuvent être des choix à court terme. C'est un peu plus difficile de faire souvent des choix à moyen ou à long terme. Alors, des services rendus indispensables de la biodiversité, bien sûr, il y en a qui sont évidents. Hein, on se nourrit de biodiversité. Nous-mêmes, nous sommes de la biodiversité. Hein. En notre sein, nous avons plus de bactéries que de cellules de notre propre corps. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, un enfant qui naît par césarienne est souillé volontairement auprès du corps de la maman, parce que la césarienne, c'est une opération chirurgicale, donc elle se fait en asepsie, hein, en essayant de ne pas avoir de contamination microbienne. Et l'enfant qui naît, on se rend compte aujourd'hui qu'il doit avoir une partie des bactéries de sa maman pour être capable de se développer correctement, de digérer correctement. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'on a absolument besoin de ces microbes qu'on a en nous. Alors quelquefois, un petit déséquilibre et certains prennent le dessus, on tombe malade, mais on a besoin de cet écosystème de microbes qu'on a en nous. Et puis bien sûr, la biodiversité, c'est aussi tous les écosystèmes autour de nous. Aujourd'hui, on est dans un environnement merveilleux, hein, on a une certaine fraîcheur qui est dispensée par l'évaporation opérée par les arbres qui nous environnent. On perçoit d'emblée que la biodiversité est indispensable à la régulation climatique qui est fortement biologique. Hein. J'ai mis une illustration d'un océan. Vous savez, l'océan, c'est une grosse pompe à carbone dans laquelle notamment le gaz carbonique se dissout. Mais le gaz carbonique piégé dans l'océan est aussi piégé par le plancton, ces petits organismes microscopiques qui se développent qui meurent, qui tombent au fond de l'océan et qui piègent dans les couches de sédiments des quantités énormes de carbone. Un océan vide de vie, en fait, ne serait plus une pompe à carbone satisfaisante. Donc, nous avons absolument besoin, à tous ces égards, de la biodiversité. Alors, j'ai quand même pris quelques autres petits exemples un peu plus originaux sur les services que nous fournit la biodiversité. Et tout à l'heure, au moment du repas, on a évoqué le rôle des guêpes, parce qu'il y avait une guêpe qui nous tournait autour. Alors les guêpes, on a l'habitude de les considérer comme ennuyeuses, hein. Elles viennent troubler nos pique-niques, boulotter nos sandwichs, mais on les considère généralement comme une nuisance plutôt qu'autre chose, alors qu'en fait, elles sont pollinisatrices, hein, au même titre que par exemple les abeilles, nombreuses abeilles, hein. En France, on a un millier d'espèces d'abeilles, il n'y a pas que l'abeille domestique qui pollinise, bien entendu. Les guêpes nettoient, elles ne nettoient pas que nos pique-niques. Et puis encore plus, récemment par exemple, on a découvert en fait que le tube digestif de certaines guêpes et du frelon en France, en fait, abritait pendant l'hiver, donc les femelles qui hibernent et qui refondent des sociétés au printemps, hein, abritaient des levures. Et en fait, quand ces guêpes et ces frelons viennent mordiller les grains de raisin, elles souillent les grains de raisin avec cette levure, et je vous laisse imaginer ce qui se passe après quand on presse ces grains de raisin. On produit du jus de raisin qui fermentera naturellement grâce à la levure qui a été mise dessus par les guêpes. C'est ainsi que l'on peut faire du vin. Donc, sans guêpes, sans frelons, pas de levure et pas de vin, vous voyez. Alors aujourd'hui, bien sûr, hein, les viticulteurs m'objecteront pour stériliser les moux. Hein, les moux sont stérilisés, on réinjecte des levures calibrées de manière à avoir des vins qui soient parfaitement similaires, vous voyez. Mais on n'imagine pas qu'à l'origine, finalement, le vin est né tout simplement parce que les grains de raisin étaient salis par des hyménoptères. Donc vous voyez que les rôles des organismes peuvent se compter par millions, hein, et quelquefois, ils sont bien difficiles à imaginer a priori. Un autre exemple concerne les récifs coralliens. Aujourd'hui, on connaît tous les belles images de récifs coralliens, assez propices aux reportages télévisés ou aux vacances de luxe. Ça abrite presque un quart des organismes marins, donc ce sont des endroits prodigieux. Mais quand on vous parle du blanchiment des récifs coralliens sous l'influence de la température ou de l'acidité de l'eau, ça évoque un drame, un cauchemar, hein, au plan d'une perte de patrimoine. Mais ce que l'on sait, c'est que les récifs coralliens en fait, ont bien d'autres fonctions. Hein. Aujourd'hui, en fait, on a découvert à plusieurs égards qu'ils produisent une molécule, vous verrez le nom, hein, le DMST, qui en fait a un rôle dans la régulation de formation des nuages. Donc en fait, au même titre qu'une forêt produit une évaporation et des nuages au-dessus d'elle, ben, un récif corallien produit également des nuages. Donc vous voyez, la régulation climatique ne passe pas forcément uniquement par les organismes emblématiques que l'on considère d'ordinaire. Et puis enfin, les récifs coralliens, c'est aussi une splendide barrière, on appelle ça des barrières de corail pour cause, hein, et ces barrières en fait protègent entre 100 à 300 millions de personnes dans le monde des vagues traîtresses ou des tsunamis. Donc autrement dit, un récif qui blanchit, hein, dont les algues symbiotiques, parce que les polypes des coraux en fait vivent en association avec des petites algues. Ces algues sont très sensibles à la température et à l'acidité de l'eau. Donc quand l'eau se réchauffe et s'acidifie avec le gaz carbonique dissous, ça tue les algues, les coraux meurent, ça devient un tas de cailloux qui est brisé par les vagues, et les populations qui se trouvent en situation littérale peuvent être victimes de catastrophes. Donc vous voyez, derrière tous ces organismes vivants, il y a à chaque fois énormément de raisons de leur conférer une valeur, même de manière purement anthropocentrique. Alors, en plus, cette valeur, comme je le disais au départ, on ne les connaît pas toutes, tout simplement parce que c'est... Aujourd'hui, on connaît 2 millions d'espèces vivantes dans le monde, et vous voyez, chacune de ces espèces peut être caractérisée de manière extraordinaire pour ses interactions ou ses rôles, mais en plus, on ne connaît pas toutes les espèces qui existent dans le monde. Hein. Aujourd'hui, par exemple, en France métropolitaine, sur le territoire métropolitain, on a décrit 40 000 espèces d'insectes. Donc, vous imaginez, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Rien qu'en France, on a déjà entre 3 à 5 000 espèces de pollinisateurs. Voilà. Mais à l'échelle du monde, les insectes, c'est plus d'1 200 000 espèces. Et à chaque fois qu'on va faire une étude dans une forêt tropicale, on en découvre quelques centaines. Donc en fait, on a autour de nous, en plus, une quantité de vie, hein, qui nous reste à découvrir et dont les fonctions peuvent nous apporter des avantages colossaux dans le futur. Bon, j'ai mis pour mémoire, vous voyez, des ordres d'insectes nouveaux qui ont été décrits du milieu naturel durant les 10 dernières années. Puis mon laboratoire, il y a quelques années, a même trouvé une espèce de taupe nouvelle, hein, la taupe que les jardiniers détruisaient à l'envi dans le sud-ouest de la France depuis des décennies. En fait, c'est révélé être une espèce différente de la taupe européenne que l'on trouve, par exemple, ici, dans notre région. Et la taupe d'Aquitaine, ma foi, avait évolué de manière séparée de la taupe européenne depuis à peu près 2 à 3 millions d'années, hein, et se distingue assez bien par pas mal de caractères. Vous voyez comme quoi, finalement, même un petit mammifère comme ça, qui est bien connu des personnes, en fait, a pu pendant des années échapper à notre regard. Et il y a plein de possibilités derrière ces découvertes. Hein. Les taupes sont les réservoirs de certains antivirus qui sont parfois pathogènes. Les antivirus de la taupe d'Aquitaine ne sont pas les mêmes que les antivirus de la taupe européenne. Derrière des découvertes en apparence anodines, un peu anecdotiques comme ça, il peut y avoir des aspects qui sont très importants pour la gestion de l'environnement, la santé publique, la préservation de la diversité. Alors, on disait qu'il était absolument nécessaire de la comprendre, mais aussi de la percevoir, cette biodiversité. Et notre gros problème, en fait, c'est qu'on la perçoit, je pense, très mal. On a tendance à considérer que notre puissance technologique et scientifique nous permet d'avoir conscience de cette diversité, de prendre sa mesure, de l'étudier. En réalité, on s'aperçoit constamment dans les problématiques que l'on a au sein de la société qu'il y a plusieurs dimensions qui nous échappent et qui nous portent tort. Alors tout d'abord, ça paraît être une banalité de dire qu'une partie de cette diversité est microscopique. Dans un petit centimètre cube, hein, dans un dé à coudre de sol là, que l'on pourrait prélever dehors, là, vous avez déjà plusieurs millions de bactéries et plusieurs milliers d'espèces différentes de bactéries. Et encore, c'est un chiffre, une estimation très basse. Je disais 40 000 espèces d'insectes en France, dont beaucoup sont quand même assez petits. Tous ces organismes de très petite taille, on ne les voit pas et on a tendance à considérer, avec l'irruption de l'hygiène pasteurienne et depuis le début du siècle, que finalement les microbes, on se porte mieux quand il y en a moins. Hein. Donc il suffit de se laver les mains et plus de microbes et la vie est belle. La réalité est un peu différente. Un autre aspect de la biodiversité, c'est qu'elle évolue. Alors quand on parle d'évolution, souvent on pense à des phénomènes au très long cours. On va voir qu'en fait ça peut aller très vite et ça peut nous porter tort, au contraire nous avantager. Et puis enfin, on le disait au départ, la biodiversité c'est une histoire de liens. Aucun organisme n'est seul et n'est indépendant. Alors déjà, en termes de biodiversité microscopique, je disais tout à l'heure, autant de bactéries dans notre corps que de cellules de notre propre corps, donc quelques kilos de bactéries, plus petites que nos cellules, hein, malgré tout, mais très importantes. Une centaine d'espèces sur nos mains, même quand elles viennent d'être lavées soigneusement avec du savon, hein, et la plupart d'entre elles sont indispensables. Alors même constat pour tous les êtres vivants, évidemment, au-delà des humains. On parlait d'évolution. L'évolution, ça évoque des images, dinosaures, hommes préhistoriques, hein, des événements à l'échelle du million d'années. En réalité, on s'aperçoit que l'évolution, c'est à chaque événement de reproduction. Hein. Vous savez, à chaque événement de reproduction, il y a un père et une mère dans la plupart des organismes qui mélangent leurs gènes et les descendants sont différents. Nous-mêmes, nous transmettons entre 100 à 150 mutations à nos enfants. À chaque fois, nous avons des enfants. Il y a une étude récente qui a été faite qui est très intéressante entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui a montré que les petites mésanges, hein, quand on les nourrit avec des mangeoires, en fait, en quelques années, quand les mangeoires sont différentes dans les différents pays, le bec des mésanges change de forme de manière génétique. Et donc, les mésanges ont évolué sous la pression de sélection de nos mangeoires en l'espace de quelques années. Donc, ce que l'on pense arriver dans des millions d'années, on arrive à le générer par accident sous nos yeux en quelques années. Et puis il y a d'autres événements d'évolution dont on parle tout le temps sans se rendre compte qu'il s'agit de cette évolution que l'on porterait toujours à l'étude avec des dinosaures ou des hommes préhistoriques. C'est toute l'évolution des organismes pathogènes. Hein. On a parlé par exemple d'antibiorésistance, des bactéries qui acquièrent la capacité à détoxifier certains antibiotiques et qui de fait continuent à nous rendre malades même quand nous prenons des antibiotiques en traitement. Mais il y a également, vous avez tous entendu parler des variants du SARS-CoV-2, ben le virus qui nous rend malade de la COVID-19, il évolue hein, par mutation sur un de ces 35 000 nucléotides. Et à chaque fois que ce virus évolue un petit peu, évidemment, on craint hein, qu'il ne change de caractéristique ou qu'il échappe à la protection que nous confèrent les vaccins. Donc, des phénomènes d'évolution, vous voyez, on en a tout le temps. Mais on a du mal à mettre dans le même sac, finalement, une très belle histoire sur l'évolution des dinosaures et puis l'évolution du SARS-CoV-2. Et pourtant, c'est le même phénomène. Et évidemment, il nous impacte directement. Hein. Quand on sélectionne des animaux domestiques pour des caractéristiques qui nous intéressent, de la même manière, on utilise l'évolution biologique comme un moteur. Et puis enfin, la biodiversité interactive. On vient de le dire, on a tous des microbiomes, on a tous des microbes en nous, hein, dont les fonctions sont indispensables. La plupart des arbres que vous voyez ici autour de nous ont des champignons qui sont fixés sur les racines, qu'on appelle les mycorhizes, et qui leur permettent de se nourrir correctement. Donc l'arbre et le champignon échangent des nutriments qui ne sont pas les mêmes, parce que l'un et l'autre n'ont pas la même capacité à régénérer. Et puis enfin, vous avez tous à l'esprit l'image de l'abeille qui butine une fleur, hein, et on vient de le dire, il y a plusieurs milliers d'espèces d'insectes en France, mouches, papillons, abeilles ou autres hyménoptères, qui sont capables de transporter le pollen d'une fleur à une autre, et donc de contribuer à la reproduction de ces plantes. La plupart des plantes sont absolument tributaires, hein, de ces pollinisateurs. D'ailleurs, même un champ de colza, hein, même un champ de colza auto-fertile, en fait, gagne presque 30% de productivité en présence de pollinisateurs. Et donc, voilà, ce sont des auxiliaires dont on aurait tort de se passer. Et puis enfin, on parlait des récifs coralliens. Hein, un polype, l'animal élémentaire du récif corallien, il dépend absolument des algues pour se développer. Les algues meurent, le récif blanchit et meurt. Donc vraiment, tout vivant est dépendant d'interactions de ce type. On a présent à l'esprit celle qu'on voit tout le temps, hein, les abeilles sur des fleurs, on le voit sans arrêt. Une ruche, c'est 40 000 individus. Les abeilles passent la majeure partie de leur temps à voyager de fleur en fleur, donc on aurait des difficultés à ne pas le percevoir. Mais évidemment, les champignons sur les racines des arbres, les microbes que nous avons en nous, les algues dans les coraux, ça, on ne les voit pas et on les oublie. Voilà, donc vous voyez ces différents éléments de la biodiversité, cet aspect microscopique, cet aspect évolutif ou cet aspect d'interaction. On a bien du mal à le garder présent à l'esprit. Quand on le rappelle en évoquant tel ou tel exemple, on se rend compte rationnellement que ça existe. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal à prendre en compte au quotidien quand on a des actions concernant cette diversité biologique. Alors, on parlait de crise. Malheureusement, on est dans une situation qui a été diagnostiquée effectivement par la plateforme IPBES, qui est l'analogue du GIEC. Donc, c'est simplement des scientifiques qui sont nommés dans une assemblée et qui travaillent pendant plusieurs années sur une évaluation en reprenant toute la littérature scientifique disponible, ce qu'on appelle des expertises scientifiques collectives. Donc on peut les remercier de ce travail. Moi, j'ai assisté en tant que représentant du CNRS à la dernière réunion IPBES à Bonn en Allemagne au début du mois de juillet. C'est un travail colossal qui a été réalisé pendant 4 ans par des personnes, des scientifiques qui ont mis de côté leur activité quotidienne pour synthétiser toute la littérature et nous la donner à nous, donc tout autant qu'on est, en partage. Et en fait, en 2019, il y avait une grande réunion à Paris qui a diagnostiqué 5 causes à la crise de biodiversité telle qu'on la vit actuellement. La conversion des milieux, tout le monde sait que les forêts disparaissent, les forêts tropicales disparaissent, mais pas seulement. Et elles disparaissent aussi parce qu'on extrait du bois notamment, mais c'est la même chose en ce qui concerne la pêche et la surpêche. Aujourd'hui, 33% des stocks de poissons sont en surpêche dans le monde. Il y a à peu près 20% des poissons pêchés qui sont pêchés de manière illégale dans le monde. Donc on est vraiment dans des situations qui sont très loin des situations régulées que l'on connaît autour de nous, dans l'espace européen notamment. Et puis, il y a toutes les questions de pollution. Aujourd'hui, la quantité de pesticides utilisés dans le monde va toujours croissant. On est dans une situation qui est absolument phénoménale de ce point de vue-là. Le changement climatique, bien entendu, il a autant d'effets négatifs sur la biodiversité que sur nous-mêmes qui en faisons partie. Vous voyez bien que les arbres souffrent de la sécheresse, les oiseaux meurent également d'hyperthermie ou de sécheresse durant les événements de canicule, par exemple. Et enfin, nos transports, quels qu'ils soient, aériens ou maritimes, qui ont augmenté de plus de 1000% durant les 2 à 3 dernières décennies, ces transports transportent aussi avec eux des espèces. Alors bien sûr, les espèces vivantes, elles se déplacent, elles migrent à plusieurs égards. Pendant les siècles passés, il y a eu des apports, il y a eu des espèces exotiques qui ont été amenées. Par exemple, vous ne savez peut-être pas le lapin, qu'on considère comme un animal parfaitement naturel dans nos environnements, n'existait absolument pas dans la partie nord de la France avant que des seigneurs au Moyen-Âge ne les importent pour constituer des garennes récréatives. Donc, vous voyez, le lapin, c'était en son temps une espèce exotique envahissante. Le problème aujourd'hui, c'est que pas seulement quelques seigneurs qui déplacent des espèces exotiques, c'est l'ensemble de nos transports. Et chaque année, on a des milliers d'espèces qui se baladent d'un bout à l'autre du globe et qui nous posent parfois de gros soucis. Par exemple, comme le moustique tigre dont vous avez appris peut-être aujourd'hui, ce moustique exotique occupe maintenant à peu près les 3/4 du territoire français. Et les premiers cas de vection de maladies tropicales sont apparus spontanément, notamment dans le sud de la France. Donc cette crise, elle est vraiment à prendre au sérieux, et malheureusement elle est beaucoup moins citée très souvent dans les médias que la crise climatique, hein. Alors les deux sont évidemment en forte interaction, et on a une situation qui est assez terrifiante du point de vue de la disparition des milieux. Chaque année, 10 millions d'hectares de forêts tropicales qui disparaissent, les zones humides qui sont supprimées à 80% depuis le début de l'ère industrielle. Quand on parle des zones humides, on pense à des marécages miasmatiques dangereux, hein. Mais les zones humides, ce sont les mâts, les tourbières, les ruisseaux que nous avons autour de nous, hein, qui servaient de réserve d'eau, qui permettaient aux nappes phréatiques de se reconstituer, qui stockaient le carbone, etc. Ces zones humides continuent à disparaître à grande vitesse, même sur le territoire français métropolitain. Et puis enfin, il y a aussi les mangroves, vous savez, ces forêts qui se trouvent au bord de la mer, en fait, disparaissent et changent les traits de côte, tout simplement parce que très souvent, ces milieux littoraux sont réservés à la culture, notamment de crustacés, dans des pays tropicaux. Alors vous me direz, mais quelles conséquences à ces changements dramatiques ? Ben, il y en a beaucoup. Hein. Les sols, par exemple, un sol, c'est biologique. Dans un sol, on a l'habitude de voir qu'une masse de terre et d'éléments minéraux. Hein. Dedans, il y a plein d'éléments organiques, il y a plein d'organismes. Dans chaque centimètre cube de sol, je vous disais, plein de bactéries, de champignons, plein de petits arthropodes, de petits insectes microscopiques. Sans ces organismes, le sol meurt et n'est plus capable d'intégrer suffisamment de matière organique pour que les plantes puissent se développer. Alors, bien sûr, on peut mettre des engrais, hein, on le fait, mais ça ne suffit pas. Et actuellement, on a à peu près 40% des sols arables, c'est-à-dire cultivables dans le monde, qui sont fortement dégradés, hein. Même le Corn Belt américain, hein, qui est un peu l'équivalent de la Beauce en France, à son premier horizon aujourd'hui qui est quasiment disparu. Donc du coup, la productivité agricole plafonne, notamment aussi avec la disparition des pollinisateurs. J'en parlais tout à l'heure, plus d'abeilles, 30% en moins de production sur le colza, sur la plupart des variétés. Et puis tout ce qui est coût supplémentaire, évidemment, s'envole dans ces régions-là. Et puis, on a une autre circonstance aussi qui, malheureusement, nous s'est rappelée à nous récemment, y compris sur le territoire métropolitain. Dans des conférences, je dis très souvent qu'il y a un quart et bientôt presque deux tiers des humains qui sont sous stress en eau. Alors, quand on dit ça, ordinairement, tout le monde soupire en pensant « Oh là là, les pauvres, ils vont beaucoup souffrir hein. ». Et puis, une fois la conférence terminée, on oublie et on s'est aperçu qu'on allait beaucoup souffrir, nous aussi, en France, hein, dans certaines circonstances. Donc, ça concerne des territoires qui ne sont pas désertiques ou subdésertiques, mais également des territoires qui sont très proches de nous. Et puis, il y a aussi un élément qui a été expertisé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, dont je fais partie, et puis par l'IPBES en 2019-2020. C'est la quantité de maladies émergentes également qui apparaît depuis le début du XXe siècle et qui va croissant. Tout simplement, c'est un effet mécanique de la destruction des milieux naturels, notamment des forêts. Quand vous morcelez des forêts, vous augmentez la surface d'échange et vous mettez en contact des populations humaines avec des animaux qui sont dans la forêt. Exactement comme chez nous, hein, les animaux sortent de la forêt pour aller se nourrir dans le champ de maïs d'à côté. Ça se produit également en Asie, ça se produit en Afrique, en Amérique du Sud. Ça se produit également chez nous, hein, quand les rongeurs qui ne sont pas pourchassés par les renards sont libres de se balader et viennent nous transmettre leur tique et la borrelia, la maladie qui cause la maladie de Lyme chez les humains. Et des maladies de ce type, il en est apparu une quantité considérable durant les dernières décennies. Hein, on l'oublie très rapidement. Hein. Par exemple, si on en parle à propos de la Covid-19, dont la cause n'est pas bien connue, puisque c'est très récent évidemment. On en parle aussi à propos du SRAS, du premier SRAS, à propos du MERS, à propos du virus Ebola, à propos du sida aussi. Hein. On oublie que le sida, c'est une maladie qui est apparue non pas en 86 quand on a découvert son virus, mais au début du XXe siècle, et que c'est une maladie qui cause encore beaucoup de morts dans le monde et qui est issue de primates vivant dans des milieux naturels qui ont été fragmentés et qui ont permis un contact avec les populations humaines. Donc vous voyez les conséquences de cette dégradation et de cette pertes de biodiversité, elles sont multiples et elles sont inquiétantes. Alors, je vais peut-être laisser...
Merci en tout cas pour cette première approche, pour mieux comprendre cette valeur de la biodiversité. Je vous propose d'aborder un deuxième thème, on reviendra après sur ces propos dans un temps plus conclusif, mais finalement, les sciences naturalistes... En France, jusqu'au XVIIIe siècle, on était plutôt très avant-gardiste. Hein. On connaît beaucoup de grands naturalistes comme Buffon, Jussieu, Réaumur. Puis, au courant du XIXe siècle, on a perdu un peu de vitesse peut-être sur ces questions-là. La culture scientifique, elle existe évidemment dans notre pays, mais elle est peut-être un peu moins présente que dans certains pays anglo-saxons. Mais néanmoins, je vous invite à relire ensemble notre charte de l'éducation artistique et culturelle, puisqu'elle nous rapproche, je crois, dans certains de ces articles, à la fois des objectifs de la formation des jeunes à la démarche scientifique, un préalable évidemment nécessaire pour appréhender le monde et les enjeux contemporains que vous venez d'évoquer avec toute leur complexité. Par exemple, je lis l'article 4, hein, l'éducation artistique et culturelle contribue à la formation et à l'émancipation de la personne et du citoyen à travers le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. Il y a besoin de cet esprit critique, évidemment, pour comprendre ce monde. L'article 6 aussi qui évoque que cette éducation artistique et culturelle permet aux jeunes de donner du sens à leur expérience et de mieux appréhender le monde contemporain. Alors, peut-être, Philippe Brancolard, en quoi notre relation justement à la nature, à la biodiversité que vous avez décrit, aussi surprenante que vous avez pu nous montrer dans un certain nombre d'exemples, eh bien, comment cette relation peut contribuer au développement à la fois de notre sensibilité, mais aussi notre créativité, notre esprit critique, et puis, finalement, ça pose la question de comment réussir, ou bien réussir, à éduquer à l'environnement et à la biodiversité, en tout cas pour inverser la tendance que vous avez présentée tout à l'heure.
Effectivement, on est dans une situation d'urgence, donc en plus, on s'aperçoit un peu aujourd'hui, un peu tardivement, qu'on devrait avoir une vision un peu plus rapprochée sur la biodiversité, et évidemment, cette vision, on devrait déjà la communiquer aux personnes jeunes, hein, qui sont en cours de formation et qui vont avoir ces fondamentaux et qui vont pouvoir gérer cette situation. Alors effectivement, je pense que dans la biodiversité, il y a des éléments qui nous aident, hein, bien sûr qu'on doit prendre en compte, mais il y a aussi des éléments qui nous aident de manière un peu rétroactive à cette prise en compte. Apprendre et comprendre la biodiversité, c'est souvent avoir une démarche de curiosité ou d'empathie. Hein. Là, j'ai une petite photo de bourdon. Voilà. Quand on voit un insecte sympathique, comme ça, une abeille, un bourdon, hein, on a envie d'aller vers lui, au moins on sait que c'est un insecte utile, on aime bien le miel. On le considère, on le regarde, et ça nous donne quelque part une capacité à sortir de notre coquille, hein, et aller vers le vivant, aller vers la diversité du vivant, et à ne pas rester enfermé dans un mode de vie qui serait uniquement urbain, technologique ou peu perceptif. Et puis il y a aussi une démarche de curiosité intellectuelle. Hein, là, j'ai mis un petit schéma un peu compliqué qui essaie d'expliquer et qui sort d'une publication très, très bonne faite par des Hollandais sur des relations entre les populations de renards, les populations de petits carnivores aussi, et puis les populations de rongeurs, qui expliquent la dynamique de la maladie de Lyme. Vous voyez, et ce type de résultat, en fait, c'est vraiment pour la curiosité intellectuelle une stimulation. Hein. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 50 000 personnes qui sont malades de la maladie de Lyme chaque année. Ça suscite un traitement antibiotique lourd, c'est pénible, c'est un problème de santé publique. Quand on va se balader en forêt, on doit regarder en rentrant, en particulier sur ses enfants, s'il n'y a pas une petite qui serait passée par là, hein, et qui aurait la mauvaise idée de mordre la peau, hein, sachant qu'à peu près 20% des tiques sont porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Donc ce type de situation, ça nous interpelle, ça nous fait réfléchir. Donc je pense que ça, déjà, la biodiversité a cette vertu-là. Hein, on n'est pas dans un huis clos entre humains, on est dans un univers vaste où existent d'autres organismes, et ça nous oblige à sortir de notre huis clos. Il y a aussi un autre aspect, je parlais d'aiguiser nos sens, puisque, bien sûr, le vivant n'est pas homogène du point de vue de taille et d'aspect. Là, j'ai mis un petit dessin qui a été fait par un biologiste nord-américain qui est amusant, parce qu'il figure des différents organismes à la taille de leur nombre dans le monde. Alors, vous voyez, il y a un insecte qui est monstrueux, là. Il y a un acarien ici qui est assez gros, et puis, les vertébrés sont tellement petits qu'on ne les voit pas, parce qu'il y a 7000 espèces de vertébrés dans le monde, hein, pardon, 7000 espèces de mammifères dans le monde, et puis 1 million d'espèces d'insectes, et les nombres sont à l'avenant. Donc ce genre de représentation, ça nous oblige à porter un regard différent sur le vivant au quotidien. Hein. Si on se penche un peu sur la végétation alentour, on va voir quelquefois des insectes pas très courants, un peu plus petits, avec des formes étranges. Ça nous oblige aussi à admettre plusieurs manières d'être, hein, à ne pas considérer que finalement ce qui est humain ou proche des humains, des primates ou d'autres mammifères, finalement c'est la norme dans le monde et c'est la seule chose à considérer. Et puis enfin, la biodiversité, étant donné qu'on est un primate qui vit dans un milieu naturel à l'origine, au plan biologique, on en a besoin pour se sentir bien. Je pense que même les plus citadins de nos concitoyens, en fait, auront du mal à prétendre qu'ils ne se sont pas sentis bien un jour dans un jardin, même si c'est un parc urbain, hein, qu'ils ne se sont pas sentis bien devant un massif de fleurs ou sous un arbre. Alors, on a tous besoin de cet environnement, et les études de psychologie montrent que, bien évidemment, c'est un mécanisme qui nous est indispensable. Je me suis amusé à chercher des petits logos sur le bien-être dans des bibliothèques de logos, vous voyez, dans des logiciels informatiques. Et en fait, tous les petits logos en question montrent des plantes et des feuilles, etc. Parce qu'on ne conçoit pas de bien-être sans une plante ou sans un arbre. C'est une réalité biologique. Et ça, de ce point de vue-là, la biodiversité, voilà, nous oblige non seulement à sortir de notre coquille, mais elle nous fournit aussi en retour une capacité à nous sentir bien et à envisager finalement la réalité et à la gérer un peu mieux. Alors, comment éduquer à la biodiversité? Bien, évidemment, il faut d'abord faire connaître des fondamentaux. Hein. On parlait tout à l'heure d'ADN, de cellules, de reproduction, mais il y en a bien d'autres, ceux dont je viens de vous parler, l'évolution, la vie microscopique ou les interactions entre organismes. Si on n'a pas ces fondamentaux-là, qui devraient être acquis normalement à l'école, au collège et au lycée, évidemment, quand on devient adulte, ben, ça devient, c'est pas forcément un élément de notre culture, hein. Ça devient quelque chose qu'on doit acquérir sur le tard, si je puis dire, hein, de manière quelquefois un peu moins facile. C'est indispensable d'avoir ces fondamentaux, et aujourd'hui, on est dans une situation où on a de plus en plus besoin de les transmettre. Hein. Vous avez vu qu'il y a un séminaire gouvernemental qui a permis d'appréhender le changement climatique. Moi, dans 3 jours, justement, je serai dans une table ronde avec Valérie Masson-Delmotte sur une nouvelle charte proposée aux journalistes pour parler des questions d'environnement, dans laquelle il y a également la biodiversité. Dans quelques semaines, je ferai une formation pour les rédactions de France Télévisions sur la crise de l'environnement, parce que ce sont des phénomènes qui interviennent dans notre vie quotidienne et qui sont absolument indispensables à prendre en compte. Donc, connaître les fondamentaux, ça se fait à tout âge. C'est toutefois bien mieux quand on arrive à les faire connaître, et évidemment, c'est le rôle des pédagogues et des enseignants, le plus tôt possible, de manière qu'on puisse les intégrer à notre culture, y réfléchir, à développer un esprit critique, effectivement, en parlant de ces phénomènes, qui sont des phénomènes qui sont appréhendés de manière scientifique. Puis après, il y a un élément aussi qui est certainement moins scientifique dans l'imagerie classique, hein, et qui est de l'ordre de la surprise, de l'attirance, de l'empathie. Hein. Pour faire réfléchir, pour faire ressentir, on a besoin de quelque chose qui nous surprenne, quelquefois. Moi, j'ai dirigé pendant 10 ans un laboratoire que j'ai fondé au Muséum national d'histoire naturelle, avec à peu près 200 chercheurs et étudiants. Et on avait une relation avec le public important, puisque le muséum est un établissement qui, sur ses différents sites, accueille à peu près 3 millions de visiteurs chaque année. Et on se rendait compte très souvent qu'au début, on cherchait naïvement à attirer les personnes et à leur faire comprendre les phénomènes avec des animaux sympathiques, hein, un joli papillon, une abeille. Et on provoquait de la sympathie, de l'empathie, mais très souvent chez des personnes déjà très sensibles à ce type de phénomène ou d'organisme. Et puis parfois, on a parlé d'organismes par accident, parce qu'ils s'imposaient à nous, qui étaient nettement moins sympathiques. Hein. Ici, j'ai mis la photo d'un rat tenu. C'est une espèce de rongeur social qui vit dans des terriers, qui, comme son nom l'indique, n'est pas vraiment velu, hein, et qui n'est pas très joli. Quand on parle de ce genre d'organisme, souvent, bah, ça provoque soit le dégoût, la répugnance, mais quelquefois, bah, ce ne sont pas forcément des réactions si négatives que cela. Ça oblige finalement à prendre en considération ces organismes. Et là, on va capter l'attention, hein, de personnes qui ne sont pas forcément très intéressées par des questions de biodiversité ou d'environnement dès le départ. Vous voyez, surprendre et attirer, ça permet des fois d'amener à réfléchir ou à ressentir. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis encore une fois, je pense qu'une bonne éducation, ça a été dit à plusieurs égards ce matin, et on l'a vu avec les enfants et les collégiens qui étaient présents. Hein. Si on n'est pas heureux dans la vie, si on n'a pas de bien-être, on n'est pas capable d'apprendre. Hein, et il faut que la connaissance rende heureux également, et que le bonheur permette d'acquérir cette connaissance. Hein. Je pense que, voilà, sans faire du thomisme, hein, on ne va pas citer saint Thomas d'Aquin, un minimum de confort pour pratiquer la vertu, on ne va pas aller jusque-là quand même, mais je pense que c'est vraiment important pour se sentir bien, pour arriver à acquérir des connaissances, et que ces connaissances nous rendent heureux. Et la biodiversité, également cette vertu, les connaissances qu'on a sur la biodiversité, nous apportent du bonheur, tant mieux, c'est essentiel. Alors, petite provocation. l'habitation. Hein. Vous voyez cette image de la cathédrale Notre-Dame en feu, bon, comme à tout le monde, moi, quand j'ai vu ces images la première fois, ça m'a tordu les tripes, hein, c'est abominable. Et on a l'impression d'une perte terrible, quoi. Et c'est insupportable. Et bien sûr, c'est une perte terrible parce que les cathédrales, il n'y en a pas des centaines, hein, il y en a quelques-unes, celle-là est unique. C'est vieux en plus, hein, ça a des siècles d'existence, c'est rare, pas toute cathédrale. Et puis, ça nous est apparenté. Une cathédrale, ça a été construit par des humains, hein, et donc on ressent ça comme un héritage culturel. Par contre, si je vous parle du gazé, ici, un petit papillon qui se nourrit de rosacée et qui est en train de disparaître, qui a déjà complètement disparu du Royaume-Uni, hein, qui est en train de disparaître presque aux deux tiers du territoire français métropolitain, bon, on vous dira, bah, c'est bien triste, hein, petit papillon, c'est bête, hein, pourquoi il a disparu, c'est ennuyeux, bon, est-ce que c'est vraiment grave, on ne sait pas, hein, mais voilà, sans plus. Hein. Et pourtant, vous voyez, il est unique, hein, ce papillon, il y a 40 000 espèces d'insectes en France, mais il n'y en a aucune autre qui est comme lui. Il est aussi unique que la cathédrale, en quelque sorte. Mais il est vieux. Hein. En fait, quand on étudie l'ADN du gazé, qu'on regarde les divergences par rapport aux ADN des papillons apparentés, on s'aperçoit que le gazé a à peu près 1 million d'années d'existence. Donc on est en train de faire disparaître une petite bestiole qui est apparue il y a 1 million d'années. Et pendant 1 million d'années, elle a vécu à peu près tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive. Pour des raisons futiles, en plus, hein, je vous rassure. Le gazé, ben, on peut se dire qu'il devient rare, mais en même temps, les insectes, vous voyez, sont tellement abondants partout. Hein. Là, on déjeune de manière très agréable sous un dais, il y a des guêpes qui viennent nous ennuyer, etc. Les insectes, il y en a partout, un de plus, un de moins. Hein. Et puis finalement, le gazé, il ne nous est pas apparenté, hein. Il est très lointain, il nous semble beaucoup moins apparenté au plan psychologique qu'une cathédrale, ce qui est un paradoxe, hein, parce qu'effectivement, le gazé est bien parent à nous. Hein. Un parent qui a divergé il y a à peu près 400 millions d'années. D'un ancêtre commun avec les mammifères, les vertébrés des mammifères et les humains. Mais malgré tout, vous voyez la différence qu'il y a entre finalement la perte que l'on ressent quand on voit un monument historique disparaître et puis la perte que l'on ressent quand on voit une petite espèce très modeste disparaître. Vous voyez, ce problème d'appréhension de la biodiversité, on en parlait tout à l'heure, hein, problème de taille, problème d'évolution, nous empêche réellement de comprendre la valeur de ce que l'on est en train de saccager. D'autant plus que le gazé, en l'occurrence, il peut avoir des rôles écologiques essentiels, mais la plupart d'entre nous l'ignorent. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi une espèce d'empathie naturelle. Et on a fait une étude récemment avec des centaines de millions de données qui sont en accès libre sur le web, hein, qui sortent des études scientifiques. On s'est rendu compte, en fait, que il y a un biais évident chez les humains et chez les scientifiques, hein, parce que les scientifiques sont des humains comme les autres, je vous rassure, à considérer de manière différente les organismes vivants. Hein, et un scientifique, en moyenne, va considérer très souvent les oiseaux, les mammifères, etc., qui est très mal considéré, vous voyez, les insectes, les araignées, les mollusques, les champignons, etc. Pourquoi ? Bah, en fait, quand on a étudié statistiquement pourquoi, on s'est rendu compte tout simplement, c'est parce que le scientifique, en fait, au plan sociétal, au plan social, c'est beaucoup moins valorisant pour lui s'il étudie un insecte que s'il étudie un mammifère. Hein. Si je vous disais que j'ai passé ma vie à étudier le mode de vie des tigres dans la forêt indienne, on dirait « Ah !» Si je vous dis que j'ai étudié des insectes qui vivent dans les feuilles mortes en Amazonie, bon, vous n'allez peut-être pas éprouver la même admiration pour ma vie aventureuse. Voilà. Donc, les scientifiques, comme les autres, bah, sont sujets à ce type d'appréciation différente, hein, dans le contexte de la société. Et ça, c'est une question d'empathie également. Hein. On a beaucoup plus d'empathie pour les tigres, les éléphants, les girafes que pour les petites bêtes. Et ça se vérifie. Hein, si on fait des choix comme ça, en montrant des animaux dans des situations pénibles, la plupart des gens, en fait, vont vouloir faire quelque chose si on leur montre un écureuil dans une situation pénible, une tortue déjà un peu moins, alors une étoile de mer ou une pâquerette, encore beaucoup moins, hein, qu'une bactérie, pas du tout. Donc on a vraiment, et ça, ce mécanisme-là, qui est biologique, nous empêche vraiment de comprendre justement que dans le monde vivant, il y a des organismes qui peuvent paraître modestes, dont on se fiche éperdument au quotidien, mais qui nous sont absolument indispensables. Et en plus, il y a un problème d'amnésie. J'ai un collègue, Franck Auchan, qui a fait une étude très intéressante, qui a montré en fait que ce que l'on voit dans les médias nous influence malgré nous. Si vous regardez ce qui se passe à la télévision, par exemple, vous allez voir sans arrêt des girafes, des lions, des éléphants, parce qu'il y a des reportages animaliers, il y a des dessins animés. Et vous allez avoir l'impression que ces animaux sont en bonne santé, qu'il y en a beaucoup. Hein, puis on se dit, honnêtement, il doit y avoir des études très poussées sur les éléphants. Ils sont comptés, mesurés, protégés. Il y a même des gardes avec des fusils qui les protègent, etc. Donc ça doit bien se passer pour eux, d'autant plus qu'on les voit toujours à la télé. Ben non, manque de peau, en fait. La plupart de ces animaux sont en voie de disparition. Hein. À l'échelle de 30 ou 40 ans, normalement, les girafes, les tigres, les lions et les éléphants devraient être disparus, si on suit la tendance actuelle. Voilà. Donc, la vision qu'on a du vivant, en plus, ce n'est pas une vision directe, bien sûr, parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas l'appréhension quotidienne et directe du bien-être de ces animaux dans la nature. Et puis, il y a d'autres animaux, des fois, qui nous semblent très importants, hein, ce qu'on appelle les fossiles vivants à de mauvais égards, hein, c'est-à-dire des organismes qui sont censés rester d'un passé lointain sans s'être modifiés, vous voyez, comme... ici le ginkgo hein, biloba ou ce fameux monotrène à l'ornithorynque australien, tous ces organismes qui sont censés venir d'un passé très lointain, en fait, c'est un peu comme des dinosaures qui auraient survécu, hein, on leur prête encore plus attention finalement qu'au lion et à la girafe, et infiniment plus qu'au gazé, au petit papillon de tout à l'heure. Hein, par exemple, quand il y a eu des incendies terrifiants en Nouvelle-Galles du Sud, là où des forêts ont brûlé, il y avait des arbres qui sont des arbres reliques d'une lignée de pins de l'hémisphère sud, les araucarias, qui ont été protégés par des missions spéciales de pompiers. Hein, et la presse titrait, vous voyez, des arbres dinosaures sauvés des incendies, parce que ces arbres-là nous semblaient dignes d'intérêt. Là, vous voyez, notre relation au vivant, elle est vraiment marquée par plein comme ça d'appréhensions un peu différentes, hein, et puis souvent un peu quantitatives. Hein, par exemple, si je vous dis que le poids de toutes les fourmis est équivalent au poids des humains sur Terre, ça va vous impressionner. Hein. Pour autant, ça ne va pas forcément vous amener à être plus enclin à protéger les fourmis. Aujourd'hui, sur Terre, d'ailleurs, hein, si on regarde les mammifères, vous voyez, le poids du bétail a dépassé de très loin le poids des humains, au-dessus du poids des cochons, des moutons, aux chèvres, et puis les vertébrés sauvages sont très très loin derrière. Aujourd'hui, le monde vivant des vertébrés sur Terre, enfin, des mammifères pardon, sur Terre, c'est d'abord un monde d'animaux d'élevage. Il est très très loin, de plusieurs ordres de magnitude devant les animaux sauvages. Et malgré tout, malgré qu'on vient de parler de poids, dans la biodiversité, tout n'est pas en fait une question de poids. Il y a des espèces des fois qui peuvent être très très utiles, ce qu'on appelle des espèces clés, hein, parce que quelquefois ce sont des petites espèces très très locales qu'on ne voit pas trop, une petite plante dans des affleurements rocheux, dans des milieux alpins. Une murène très moche hein, pour nos yeux européens dans un récif corallien, ces animaux-là, vous les enlevez et tout l'écosystème local s'écroule parce que cet animal a un rôle absolument indispensable. Donc, quelquefois, vous voyez, ces animaux qui sont présents à peu d'individus vont avoir un rôle crucial. Donc, tout ceci, on a du mal à le percevoir parce que ce sont vraiment des choses qui ne vont pas de soi dans notre esprit. Il y a aussi un aspect sur la biodiversité, je pense, dont il faut absolument prendre conscience, c'est sa puissance. Quand on parle du climat et des aléas climatiques, on a peur, parce qu'on sait tous qu'une canicule, une inondation, c'est terrifiant. Hein. On a vu les feux, des villes qui disparaissent en feu après une canicule, on a vu des vallées endeuillées par des inondations, on se rend bien compte que c'est terrifiant. Bon, les problèmes de biodiversité, ça nous semble beaucoup plus banal, et puis on se dit toujours qu'on aura les moyens de les gérer. Dans la réalité, on se rend compte qu'on a bien du mal. Hein, par exemple, les sangliers, c'est un problème environnemental hein, qui existe depuis pas mal d'années, lié à tout un tas de causes qui seraient impossibles d'énumérer ici. Hein. On pourrait se dire, voilà, c'est un gros animal, il y a plein de gens qui savent faire avec cet animal. En principe, on doit savoir gérer. En France, les tableaux de chasse recensés par les fédérations de chasse et l'OFB en fait, montrent que de 30 000 par an tués en France en 70, on est passé à 800 000 aujourd'hui. Voilà. Donc, même une population de sangliers en France, on a bien du mal à gérer correctement. Voilà. Les moustiques, on parlait tout à l'heure du moustique tigre qui envahit de nombreux pays, dont la France métropolitaine. Aujourd'hui, c'est plus de 800 000 morts par an par vection dans le monde. Hein. Et donc, on a les antibiotiques, on a fait des progrès en médecine extraordinaires, mais il y a toujours énormément de personnes qui décèdent des suites de maladies transmises par une simple piqûre de moustique. Et puis enfin, récemment, on a été victime d'une pandémie qui a frappé le monde entier, hein, et on se rend compte qu'on a bien du mal à échapper au coronavirus qui évolue, et puis que finalement, on va jouer à cache-cache avec lui, probablement pendant le restant de notre vie. Donc on est devant une situation où on perçoit la puissance de la biodiversité, mais je vous en parle pour essayer de vous en faire prendre conscience. Vous comprenez certainement, c'est évident, mais pour autant, dans notre vie quotidienne, on ne va pas lui donner autant d'importance qu'à une canicule ou à un incendie ou à une inondation. Pourquoi ? Peut-être une question d'empathie, hein, une question de prise en compte intellectuelle de ces phénomènes, je ne sais pas. Alors, je vais laisser à nouveau David.
Merci beaucoup, Philippe Ancola. Je crois que vous nous avez montré que, finalement, appréhender la biodiversité, c'est aussi appréhender le monde d'une manière sensible. Et parler d'empathie, de bien-être. Du coup, continuons peut-être à tisser ce lien, parce que quand on parle d'un rapport au sensible que permet la nature, c'est aussi propice à l'imagination, le monde de l'imaginaire, et donc à l'expression artistique. Peut-être pour introduire ces dernières thématiques ensemble, je vais reprendre une théorie qui m'a amusé, de l'historien d'art Erwin Panofsky, dans son ouvrage « Galilée, critique d'art », qui nous dit ceci. « Et si Galilée, malgré tout son génie, était passé à côté de la découverte de Kepler, pourtant moins progressiste que lui, en raison du classicisme de ses goûts esthétiques ?» Donc, c'est assez amusant parce que vous savez que Galilée a proposé d'adopter un modèle héliocentrique, hein, mais c'est Kepler qui finalement a découvert les fameuses lois de Kepler, c'est-à-dire les relations mathématiques du mouvement des planètes sur leur orbite. Et cette thèse, peut-être, cette hypothèse, nous rappelle que la distinction entre art et science n'a pas toujours été aussi marquée qu'aujourd'hui. On prend l'exemple peut-être de Léonard de Vinci, à travers qui, finalement, l'art s'est exprimé de manière absolument remarquable en tant que vecteur de la connaissance. J'ai regardé hier Science Grand Format sur France 5, mais on essayait de reconstituer le visage de Descartes, par exemple. Le premier médecin qui, au 19e siècle, a redonné un visage en dehors de peinture, hein, de Descartes, il a été en mesure de le faire parce que c'était un artiste. C'était un artiste qui savait peindre, qui savait sculpter et qui a pu redonner science, médecin et artiste. Et je terminerai peut-être sur l'introduction de cette dernière thématique avec John Dewey, qui est un psychologue et philosophe américain du 19e siècle, et qui a formulé aussi une théorie selon laquelle art et science ne sont que deux accentuations différentes, finalement, d'une même expérience humaine, ça revient à notre propos introductif, ou deux branches produites par la même vertu de l'imagination. Alors finalement, ça nous amène à nous questionner sur qu'est-ce qu'une démarche scientifique ? En quoi cette démarche scientifique peut-elle avoir des points communs avec une démarche artistique ? Et à quoi pourrait ressembler une relation fertile entre art et science, peut-être au service d'une meilleure prise en compte de la biodiversité ?
Oui, tout à fait. En fait, je pense que là encore, on segmente de manière artificielle les éléments de notre vie. Je vous ai parlé du climat, de la biodiversité. On est dans un même monde. L'eau des nuages, l'eau qu'il y a dans les arbres, dans notre corps, dans le sol, c'est la même eau et elle cycle. Et donc, séparer le climat du vivant, c'est une facilité matérielle pour les gens qui étudient ces problématiques, mais en aucun cas, c'est une réalité physique, je dirais. C'est la même chose pour l'art et la science. On se trouve dans des pratiques sociales qui sont un petit peu, qui semblent pourtant très différentes, hein, puis qui sont sanctuarisées dans des espaces différents. Hein. L'art, c'est dans des musées, c'est dans des expos, dans des ateliers d'artistes, dans des cinémas, etc. La science, c'est dans des laboratoires. Voilà. On a l'impression que ce sont déjà des mondes différents. Alors moi, ayant travaillé pendant des années au Muséum national d'histoire naturelle, évidemment, je suis dans une situation où je suis un peu entre deux chaises, si je puis dire. Je suis très heureux de cette situation. Bon, je suis un peu moins quand je suis au siège du CNRS, rue Michel-Ange. C'est vraiment, on n'est pas du tout dans, on est beaucoup moins dans la médiation et beaucoup plus dans la recherche scientifique pure et simple. J'ai essayé moi un peu de vous provoquer en émettant quelques idées. Je ne suis pas un philosophe de l'esthétique, je ne suis pas un sociologue, donc mes idées, en l'occurrence, ne sont pas des idées de biologiste, ce sont des idées de citoyen qui a expérimenté un peu différentes démarches de médiation scientifique. En commun, bien sûr, entre l'art et la science, il y a créer, imaginer, curieux, s'émouvoir, élargir notre univers. J'en parlais à propos de la biodiversité, mais effectivement l'émotion ou la perception qu'on a d'une œuvre d'art, finalement, c'est aussi celle qu'on peut avoir devant un insecte, une plante, une fleur. Et on est un peu dans un domaine qui a des racines communes. Dans l'expression artistique, la particularité, c'est que cette expression, elle est dirigée. Au lieu de s'émouvoir devant quelque chose qui nous est totalement indépendant, c'est nous qui le générons, quelque part. Alors, plus particulier à l'art, on pourrait dire qu'il y a une perception, un ressenti. mais plus particulier, parce qu'il y a aussi ce ressenti, on l'a aussi voilà, devant une démonstration mathématique, alors c'est peut-être accessible à moins de personnes, mais la beauté d'un raisonnement, on l'aperçoit aussi en tant que scientifique. Hein. Et puis, plus particulier à la science, on pourrait dire qu'il y a un raisonnement hypothético-déductif, c'est-à-dire vraiment poser des hypothèses, mettre en place des dispositifs expérimentaux ou des dispositifs d'observation qui permettent de vérifier ces hypothèses, au contraire de les détruire. Mais même dans l'art, il y a des démarches qui s'apparentent à ça. Hein, quand un artiste essaye de traduire, par exemple, des règles de perspective de manière différente, hein, par exemple, dans le monde de l'abstraction, si vous avez un artiste comme Miro, qui a traduit les règles de perspective sans ligne de fuite, simplement par la juxtaposition d'objets, de couleurs et de tailles différentes, finalement, on est aussi dans une méthode hypothético-déductive. Miro, jour après jour, dans son atelier, a essayé de suggérer des effets sans avoir de calcul mathématique derrière. Donc, on est vraiment dans un plus ou moins, hein, on a bien du mal, finalement, à caractériser chacune des activités. Je pense qu'il y a peut-être un aspect qui est un peu plus significatif pour la science, c'est la validation collective sociétale. Dans l'art, finalement, il y a beaucoup d'appréciations, on va dire, subjectives, hein, parfois malheureusement liées aux lois du marché international. Dans la science, en théorie, notamment quand on a affaire à des expertises collectives scientifiques comme celle du GIEC ou de l'IPES, là, on essaie de considérer un certain nombre de résultats qui ont été validés par les pairs et de prendre dedans ce qui est vraiment avéré et consensuel. Donc là, il y a vraiment une forme de validation, hein, qui a un intérêt particulier. La validation dans l'art, souvent, c'est plus lié à des questions d'évolution culturelle ou d'évolution, malheureusement, quelquefois commerciale. Et c'est peut-être là où on va avoir des différences de mécanismes sociétaux dans la manière dont ces différentes activités sont représentées à terme. Ce qui ne veut pas dire que dans leur parcours intellectuel, au début, elles soient différentes, bien sûr. Alors, si j'ai essayé de creuser un petit peu, hein, l'art permet de stimuler la réflexion scientifique par le ressenti ou le donner à voir. Moi, très souvent, quand j'enseigne un petit peu, je suis chercheur CNRS, donc je n'ai pas de fonction d'enseignement, mais j'enseigne de temps en temps sur des sujets que je connais bien, et notamment, par exemple, en master à Sorbonne Université. Et quand j'enseigne sur ce que c'est qu'une espèce biologique, parce que c'est assez compliqué, ça fait appel à la théorie de la génétique des populations ou à la théorie des relations de parenté basées sur des études statistiques de l'ADN, très souvent, j'essaie d'expliquer aux étudiants, en fait, que quand on voit, on ne voit pas une espèce quand on regarde en milieu naturel. Ce qu'on regarde là, c'est une guêpe qui vole au-dessus de son assiette, mais on ne voit pas l'espèce guêpe, on voit un individu. Et encore, on se trompe, parce que cet individu est composite dedans, il y a des levures, hein, il y a d'autres micro-organismes. Voilà. Et donc, je fais appel souvent à ce célèbre tableau de Magritte, hein, qui a provoqué pas mal de réflexions pendant des années. Il y a même un texte, je crois, de Michel Foucault sur ce tableau. Hein. En fait, Magritte a fait une petite pirouette, comme à son habitude, dans ce tableau. Il a montré un dessin de pipe en disant « ceci n'est pas une pipe ». Effectivement, ce n'est pas une pipe, c'est un dessin de pipe. Et c'est la même chose quand on nomme une espèce, vous voyez, ou quand on assigne un individu de guêpe à l'espèce guêpe, bah c'est un nom qu'on lui donne, mais pour autant, on n'a pas circonscrit la notion d'espèce. Donc ce type de distinction, quelquefois, bah, un artiste l'a tellement bien rendu dans une œuvre que même pour dialoguer entre scientifiques, c'est vraiment indispensable. Il y a aussi un article très très célèbre, alors là, l'image est très moche, hein, désolé, mais en fait, il y a des arcs-boutants, vous savez, dans les églises, qui sont souvent des procédés architecturaux pour soutenir les voûtes. Hein. Et donc, ces espèces de hauts, de piliers, hein, qui tendent vers la voûte, en fait, ont une fonction évidente au plan mécanique. Mais les artistes qui ont construit ces églises, souvent, les ont peints, les ont revêtues d'œuvres d'art. Et donc, on a deux biologistes célèbres aux États-Unis, Stephen Jay Gould et Levantine, qui ont produit un article dans les années 70 qui a révolutionné la biologie d'évolution, qui a expliqué en fait que malgré la sélection naturelle, malgré l'évolution, il y a beaucoup de caractères adaptatifs chez les organismes, c'est-à-dire qui sont favorables à leur reproduction et à leur survie, qui ne sont pas forcément issus, hein, d'un design volontaire. C'est tout simplement un héritage, hein, qui, dans certains cas, l'héritage des ancêtres, qui dans certains cas a acquis un rôle secondaire. Et pour expliquer ça, dans cet article qui a fait Flores, ils ont pris l'exemple d'un des arcs-boutants dans la basilique Saint-Marc à Venise, pour expliquer en fait que quelquefois on conçoit un objet, et puis, secondairement, cet objet acquiert un second rôle. Voilà, donc vous voyez, même l'art peut être utile, bien évidemment, à la science, c'est une évidence, mais la question est de trouver quelques exemples. Très souvent aussi, on associe, on combine les émotions. Moi, je ne connais pas pratiquement un seul grand traité scientifique dont la couverture n'est pas avec une œuvre d'art. Par exemple, ce tableau du douanier Rousseau, on le voit sans arrêt en couverture des manuels d'écologie dans le monde universitaire. Là, j'ai pris aussi l'exemple du fameux film Don't Look Up, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi, ça m'a donné une claque terrible, tellement, ça m'a donné une telle claque que j'ai même fait une tribune dans le monde parce que ça m'a exaspéré dans les jours suivants de voir que, en fait, ça ne suscitait de réaction qu'en regard de la crise du climat et absolument pas en regard de la crise de la biodiversité. Alors, on est en pleine pandémie, mais la biodiversité n'a aucune importance. Et ce n'est pas pour dire que le climat n'en a pas non plus, évidemment, mais voilà, la crise de l'environnement, elle ne se limite pas au climat, malheureusement. Et donc, vous voyez, le film Don't Look Up, bah, c'est une œuvre d'art extraordinaire. Moi, c'est un film, je trouve, absolument génial, avec des acteurs prodigieux. Et bah, là, il a réussi, finalement, à peut-être faire plus pour la compréhension des crises de l'environnement dans lesquelles on se trouve, hein, que bien des écrits scientifiques ou quelques rapports du GIEC ou de l'IPBES. Ben, voilà. Et doit-on s'en plaindre? Ben non, pas du tout. Hein. C'est finalement une métaphore assez picaresque dans ce film, hein, qui montre une situation analogue à celle que nous vivons actuellement, avec un déni permanent par un certain nombre de personnes mal informées ou qui sont inconfortables avec la reconnaissance de la crise de l'environnement, des éléments de cette crise. Voilà. À tel point maintenant que sur les médias sociaux, vous avez un hashtag « Don't Look Up » hein, qui apparaît à chaque fois qu'une personnalité a une réaction un petit peu spontanée, un peu maladroite par rapport à ce genre de problématique. Voilà. Donc, vraiment, on peut combiner des émotions dans notre société, ben, ce sont des choses qui se font en permanence. Voilà. Donc là, c'est un exemple, mais ça se fait en permanence. Et puis, il y a quand même aussi des éléments dans l'autre sens. Hein. Il y a plein d'artistes qui se sont inspirés de la science à plein d'égards. Là encore, hein, c'est un peu désolant, mais je ne parle que des grands artistes très connus au plan international. Hein. Jean Harpe, qui a fait de l'abstraction, mais dans laquelle on retrouve des éléments biologiques. Jean Harpe, il a créé des formes, c'est un des artistes préférés, il a créé des formes qu'on dirait issues d'une existence biologique et qui, en réalité, n'ont jamais existé dans le monde. Et finalement, il s'est inspiré du vivant dans ses formes pour créer des formes pseudo-vivantes, mais qui ne sont pas du tout vivantes. Vasarely, ou l'art cinétique, dans lequel on reprend des règles géométriques pour créer des abstractions géométriques qui provoquent des problèmes de perception. Ou Christian Boltanski, un artiste que j'ai eu l'honneur de rencontrer il y a quelques années, alors qu'il essayait de créer une œuvre d'art basée sur la vie de certains insectes, et par le hasard des connivences, on m'avait demandé des renseignements pour l'aider. Tous ces artistes, en fait, ont été, à un moment donné ou à un autre, stimulés par la science, et c'est évidemment fondamental dans ce sens-là également. Et puis enfin, il y a un aspect qui est évident aussi dans la situation que nous vivons en ce moment, qui est une situation d'urgence, face à des crises, il y a la nécessité de prendre conscience. Le gaz carbonique comme générateur d'un effet de serre, ça a été démontré au milieu du 19e siècle. Ça n'a pas été démontré. L'hypothèse a été faite au milieu du 19e siècle et ça a été démontré un peu après la moitié du 20e siècle. Vous voyez. Et aujourd'hui, je pense que ça devient enfin un mécanisme qui est admis par la plupart des gens dans la société. Voilà. Donc la prise de conscience, c'est urgent, hein, surtout quand on l'admet, quand elle intervient un peu trop tard par rapport à la gravité du phénomène, mais c'est anxiogène aussi. Hein. Et donc, dans une crise, il y a deux choses. Il faut prendre conscience, mais il ne faut pas être tellement anxieux que l'on n'arrive pas à faire avec la situation. Et puis enfin, c'est le fait qu'il faut aller vers des solutions, mais sans dissonance ou sans clivage. Moi, quand j'ai fait cette petite tribune dans Le Monde, j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue, j'ai été agressé en retour par un certain nombre de scientifiques qui trouvaient que je mélangeais tout et que j'étais un écolo iconoclaste, alors je ne faisais qu'exprimer une réalité scientifique qui est validée par des expertises scientifiques collectives dans le monde entier. Voilà, je ne faisais pas œuvre révolutionnaire. Donc on est dans une situation, aujourd'hui, où on a prise de conscience, beaucoup d'anxiété malheureusement, hein, et puis souvent des combats de coq à propos de telle ou telle solution. Et en fait, la science ne sera pas seule suffisante pour régler ses problèmes. problème, il est évident hein, qu'aujourd'hui, on le voit bien. Moi, suite à ma représentation CNRS au sein de l'IPES, j'ai été interviewé plusieurs fois par des médias nationaux, écrits ou télévisés, dans lesquels on me donne quelques minutes pour essayer d'expliquer ce dont il s'agit. C'est déjà un progrès phénoménal par rapport à ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans en termes de prise en compte par la société. Mais on voit bien qu'il y a encore une énorme progrès à faire pour qu'il y ait une prise de conscience globale. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas déjà, bien sûr, à trouver des solutions. Hein, mais pour que ce problème et cette solution soient connus de tous et qu'on puisse s'en emparer collectivement, chacun à notre mesure, il y a vraiment un besoin absolu. Et on aura toujours besoin de beaucoup plus de nourrir nos ressentis, de diversifier nos émotions, d'être heureux grâce à l'art, hein, de mille manières, de manière à arriver justement à prendre en compte ces situations. Je pense que là, si on, dans des situations de crise comme ça, si on ne s'adresse qu'à la science, on a perdu d'avance. Hein, il faut absolument bénéficier de la synergie entre ces différents modes d'activité qui ne sont pas si différents que ça finalement. Voilà, je vous remercie.
Peut-être avant de prendre quelques questions, je ne prétends pas résumer le propos évidemment parce qu'il était aussi dense, riche que passionnant. Quelques grandes idées peut-être au cours de votre intervention et qui amèneront les participants éventuellement à réagir s'ils le souhaitent pour poser une ou deux questions. D'abord, on a retenu que nous étions des primates et que nous faisons bien partie de cette biodiversité. D'où l'importance de nous percevoir comme faisant partie de la biodiversité et étant nous-mêmes source de biodiversité avec les bactéries que nous hébergeons. Notre rapport à la biodiversité, la valeur qu'on donne à la biodiversité, c'est finalement une vision très anthropocentriste des choses. Vous avez posé la question finalement quelle serait la valeur des espèces si finalement l'humanité n'existait pas sur notre planète. Un avertissement que vous nous avez donné, tout le monde a retenu, attention, pas de biodiversité 20, parce que les guêpes jouent un rôle très important dans ces processus de fermentation, mais vous vouliez nous dire par là aussi qu'il n'y a pas d'espèces qui n'ont pas de valeur. Toutes les espèces, finalement, jouent un rôle dans notre biodiversité, évidemment. Et puis, pour bien éduquer à cette biodiversité, en tout cas en comprendre les enjeux, tels que vous l'avez expliqué, là, on voit une petite araignée. Elle va depuis tout à l'heure, l'araignée. Hein,
l'araignée sur le micro.
Voilà, elle était là aussi. Elles sont partout. Quelque chose qui était important, qu'on a retenu, enfin qui m'a frappé, c'est qu'il faut rendre heureux. Heureux nos jeunes, car c'est bien aussi ce que cherche l'éducation artistique et culturelle, à la fois à surprendre et à attirer le regard des jeunes sur un certain nombre d'objets. Et puis, apprendre, comprendre la biodiversité relève aussi d'une démarche d'empathie. Indéniablement, ce rapport à la biodiversité, c'est un rapport au sensible, mais qui est aussi générateur de bien-être. Donc, les démarches art-science, on voit qu'elles se développent. On voit beaucoup, effectivement, d'artistes en résidence dans des structures scientifiques. Et notre conversation m'inspire un propos que j'avais entendu à la Cité des sciences et de l'industrie, où, finalement, la rencontre art-science était comparée à ce qui se passe dans un accélérateur particules. Vous savez, on met des particules, et elles vont se rencontrer, et elles rentrent en collision. Et quand art et science rentrent en collision, il en émerge, en fait, plein de choses, plein d'éléments nouveaux, et c'est un terreau évidemment fertile. L'art, vous l'avez conclu sur ce propos, enrichit la science comme la science enrichit l'art, évidemment. Et je terminerai juste, j'avais trouvé cette citation de Georges Braque qui disait que l'art est fait pour troubler, la science rassure. Alors peut-être qu'au début de votre propos, la science nous a un peu troublés, et peut-être que l'art nous rassure aussi un peu. Mais c'est vrai que l'art peut chercher à décrire le réel, comme d'ailleurs le fait un chercheur, comme vous le faites dans votre quotidien, vous qui inventoriez cette biodiversité du monde. C'est ce rapport au concret, peut-être à l'explication du fonctionnement de notre système planétaire, qui peut rassurer. L'art peut donner aussi une toute autre image du réel. Elle peut être sublimée, elle peut être inattendue, voire surréaliste, évidemment. Et puis l'interprétation de l'artiste peut aussi se détacher du réel, ce que fait peut-être un peu moins le scientifique, mais je crois que c'est ce qui permet finalement aux artistes de sublimer ce réel et peut-être de nous trouver, mais aussi de nous faire rêver. Philippe Grand-Collat, vraiment un immense merci de votre intervention. L'ancien professeur de SDGT était vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous. Merci pour ces éclairages sur Radio Vida. Alors, est-ce qu'éventuellement il y a des questions pour Philippe Grand-Collat, Quentin Amali?
Bonjour, merci. Le début de votre intervention, ça m'a beaucoup fait penser aussi à ce slogan qui m'avait marqué la première fois que je l'avais lu dans la ZAD, la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes, où il disait « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Et qui a été beaucoup repris par, mais je pense parce que ça explique un peu bien parfois son propos, par Philippe Descola, l'anthropologue. Et du coup, je me demandais, et on en parlait aussi à table, qu'est-ce qu'on fait dans ces rencontres art-sciences et dans cette culture scientifique en général, des sciences humaines qui m'apparaissent aussi un peu indispensables pour réfléchir ces questions-là.
Oui, tout à fait. En fait, justement, un des derniers bilans faits par l'IBES, en fait, qui a été fait publié début juillet, là, c'était sur les valeurs de la nature, et précisément, ça reconnaissait, c'était une analyse de tous les travaux qui avaient été menés par les anthropologues et les sociologues pendant des décennies, et notamment ceux de Philippe Descola. Et effectivement, il y a mille manières de vivre chez les humains, il y a une manière de vivre avec la nature, dans la nature, et puis une manière de vivre en tant que nature. Et de ce point de vue-là, les peuples autochtones ont beaucoup à nous apprendre. Et évidemment, les anthropologues et les sociologues qui étudient ces différentes manières de penser ou de vivre sont au premier rang pour permettre justement cette appréhension de la diversité du vivant, la diversité du vivant dans lequel on est. C'est pour ça que, même si quelquefois c'est un peu critiqué, moi je préfère continuer à utiliser le terme diversité du vivant, parce que dans diversité du vivant, on y est. Dans la nature, selon les peuples auxquels on s'adresse, on y est ou on n'y est pas, et ça entraîne évidemment des dichotomies plus ou moins dommageables. Donc effectivement, les sciences humaines sont au premier rang dans ce type d'appréhension. Alors c'est un sujet qui est souvent un peu difficile malheureusement à vulgariser. Moi j'ai récemment, j'avais été interviewé par exemple par France Info ou par un ou deux autres journaux sur ce rapport de l'IBES. Alors, il y avait deux rapports qui ont été délivrés en même temps, un sur l'utilisation des espèces sauvages, comme vous le disiez, 3 milliards d'êtres humains qui vivent encore directement de 50 000 espèces sauvages, donc une image de l'humanité très différente de celle qu'on peut avoir, nous, dans notre monde quotidien. Et ce rapport-là était infiniment plus facile à comprendre que le fait de faire appel au regard sur l'autre, et notamment vers les peuples autochtones. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, même pour des personnes éduquées, bienveillantes, il est difficile d'aller vers l'autre, dans un monde non industriel, et d'imaginer que cet autre, on parlait des Kogis ce matin, puisse nous apprendre beaucoup sur quelque chose que nous croyons connaître parfaitement et que nous maltraitons quotidiennement. Donc ça, c'est un paradoxe, c'est que les sciences humaines sont à même, normalement, de pouvoir nous aider à résoudre.
Moi, j'aimerais bien rebondir sur votre réponse. Je suis recteur de cette académie, il se trouve que je suis sociologue par ailleurs. Et en vous écoutant, d'abord merci pour cette brillante conférence, et parce qu'elle est brillante, moi, elle m'interpelle forcément, comme tous les gens que je regardais vous écouter dans cette salle, parce qu'on vous écoute avec bonheur, sans doute, bonheur de se nourrir des connaissances que vous nous apportez, des choses que vous éveillez. Puis on voit que derrière votre propos, il y a quelque chose, pardon de le dire ainsi, sans doute d'un peu mélancolique. Du fait de cette accumulation de connaissances que vous essayez de nous transmettre et qui, au fond, n'ont que très peu d'effet, en tout cas un effet qui n'est pas proportionnel à ce que vous attendez comme effet réalisé. En tant que sociologue, je me demande si, au fond, nous, humains, nous ne nous sentons pas un tout petit peu impuissants pour offrir des réponses à tout cela et que nous n'allons pas préférer, à terme, nous nourrir de cette mélancolie plutôt que d'y remédier.
Non, tout à fait. Je pense que c'est effectivement un problème... La situation dans laquelle on se trouve provoque à la fois de la mélancolie, de l'anxiété, je parlais des réactions de dissonance, on voit quelquefois des personnes avoir des réactions un peu d'agressivité, de déni, etc. Je pense que la plupart de ces réactions sont des réactions d'inconfort. Il y a une manière manière d'exprimer son inconfort. Bon, moi, je dois dire qu'effectivement, ayant été, ça fait plus de 35 ans que je fréquente le milieu naturel sur tous les continents. Une fois, je crois que j'avais fait le compte, mon fils me questionnait en me demandant « Papa, tu avais travaillé dans combien de pays ?» Et j'avais compté péniblement d'abord sur les doigts de mes deux mains, et puis j'avais continué comme ça jusqu'à plus de 5 ans. Et en fait, dans la plupart de ces pays, quand j'ai eu le bonheur d'y retourner, je me suis rendu compte que la situation de l'environnement s'était aggravée de manière terrifiante. Donc moi, je n'ai que des témoignages désastreux et désespérants à livrer. Alors bien sûr, il y a ici ou là des gens extraordinaires qui ont des connaissances, qui ont des actions, qui font des choses extraordinaires. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Brésil, par exemple, en forêt atlantique. J'ai vu des personnes qui sont des experts en reforestation, qui arrivent à reconstituer des couverts forestiers. Alors, voilà, en forêt atlantique, vous avez jusqu'à 600 espèces d'arbres à l'hectare. Hein. Donc, inutile de dire que replanter une forêt de ce type-là, ce n'est pas replanter une pinède ou une chênaie. Hein. C'est un peu plus compliqué. Bon, ils arrivent quand même à replanter des forêts avec 10 ou 20 espèces différentes qui forment un couvert. Alors, sur des sols riches, au bout de 10 ou 15 ans, on a quelque chose qui esthétiquement est valable et puis qui protège le sol, qui permet à d'autres animaux de vivre, etc. Donc, on a des expériences comme ça qui sont extraordinaires, mais c'est vrai que le ressenti global, il est négatif. Et c'est vrai que chez les scientifiques de l'environnement, hein, ça a été diagnostiqué d'être toujours en contact avec ce type de problématique, ça déprime littéralement. Hein. Et plus grave encore, c'est pas seulement le fait de considérer l'état de l'environnement, c'est le fait de considérer le comportement de nos concitoyens quand il est inadapté. Et ça, c'est voilà. Alors donc, on essaie de réduire ça hein, en essayant d'être positif et puis d'aller de l'avant. Et on rencontre tous les jours des gens extraordinaires comme ici hein, qui essayent d'avancer, de stimuler, de et ça aide, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde qui, de ce point de vue-là, ne va pas bien, hein, et c'est inquiétant. Y a des contraintes qui ne diminuent pas le nombre d'humains sur Terre, hein, et c'est une contrainte de forçage. Alors, les démographes disent que la population humaine va se stabiliser peu ou prou, hein. Néanmoins, les circonstances du changement climatique ou du changement de la biodiversité feront qu'il y aura des déplacements de population colossaux dans les décennies à venir. Hein, on le voit déjà, il y en a quelques-unes, on a bien du mal à gérer de manière humaine. Donc, effectivement, ce sont des perspectives qui sont angoissantes hein, et qu'il est difficile de ne pas prendre en compte. Après, je pense qu'il est important, effectivement, que cette prise de conscience se fasse, et grâce notamment à l'art, hein, aux aspects de l'art dans la science, justement, on arrive à être heureux malgré tout, hein, et à arriver à avancer. Mais il est vrai que je pense qu'on est dans une période où la prise de conscience n'est pas encore achevée. Sur le climat et la biodiversité, on est vraiment dans des échelles de temps en termes de prise de conscience qui sont complètement différentes. Et quelquefois, moi, j'ai un peu peur, justement, même de l'effet des premiers aléas climatiques, qui sont tellement évidents, hein, qui vont finalement être l'arbre qui cache la forêt, du reste des changements qui nous guettent et qu'il faut également essayer de prévoir. Donc oui, il y a certainement un peu de mélancolie, hein, malgré moi. Voilà. Et je pense que c'est important de le savoir, de le prendre en compte et d'essayer d'aller au-delà.
Merci beaucoup. Juste pour répondre effectivement sur les exemples aussi de fiction que vous avez abordés, comme le film Don't Look Up, il est clair que les récits, en tant que tels, on va sans doute y revenir tout à l'heure dans la prochaine conférence, jouent un rôle capital pour, un, faire des prises de conscience, mais au-delà de la prise de conscience, sans doute, est-il nécessaire d'avoir aussi des manières d'agir. Moi, je vous avoue que je suis toujours absolument fan de ce merveilleux récit. Dans les années 60, on avait demandé à un magazine très populaire, qui s'appelle la Sélection du Reader Digest, de faire le portrait d'hommes remarquables. Et le portrait remarquable d'homme qu'a fait Jean Giono est celui de l'homme qui plantait des arbres. Cet homme seul, en silence, année après année, qui plantait des graines et qui ont fait naître une forêt. Je trouve que ce récit est juste remarquable parce qu'il est à notre portée.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, je n'ai pas parlé des solutions, justement, parce que le temps qui est imparti n'est pas suffisant. Hein. Il y en a pas mal, effectivement, parmi elles, ce type d'activité. Et là, il y aurait beaucoup à dire, effectivement, ça serait, il y aurait de quoi faire au moins une ou deux autres conférences. Hein, et il est vrai que de parler des solutions peut amener aussi, alors, dans un premier temps, à s'enthousiasmer, à se dire qu'on peut aller de l'avant. Hein. mais derrière chaque solution, il y a en règle générale aussi un certain nombre de problèmes qu'il faut arriver à résoudre. Voilà. Et les élus ou les responsables hein, de tout poil le savent bien, voilà, quand on doit gérer en direct des circonscriptions, des parcs naturels, des parcs nationaux, des territoires, quels qu'ils soient, on est toujours placé devant l'urgence, des conflits éventuels de personnes et une difficulté à faire valoir les solutions qu'on voudrait préconiser.
Une dernière question.
Oui. Intervention avec plusieurs, peut-être sur la question du récit, justement, et de ce que la culture aussi a pu véhiculer pendant pas mal de décennies. J'avais vu une étude intéressante d'une scientifique qui avait justement fait une recherche sur la présence de la faune et de la flore dans les Walt Disney depuis les années 50, qui était hyper intéressante, où elle montrait justement qu'il y avait de moins en moins d'animaux, de moins en moins de nature dans les derniers Walt Disney. Et sur cette question aussi de ce qu'on peut, enfin voilà, de ne pas rester que dans la mélancolie ou la tristesse, je pense qu'on est aujourd'hui dans les rencontres de l'EAC, on parle de la jeunesse elle est aussi mobilisée, ils organisent une grève de l'école le 23 septembre pour certains, enfin des jeunes qui se mobilisent parce qu'ils trouvent qu'il n'y a plus assez d'enseignement lié à la question écologique aussi. Il y a aussi des profs qui sont mobilisés sur ces questions-là, de l'absence de l'écologie dans les programmes scolaires. C'est aussi une vraie question. Et juste pour finir là-dessus, je pense que c'est aussi un engagement politique de nous tous. On en parlait ce midi avec les amis Kogi. On vit dans une région où vous parlez du poids des mammifères. On a 9 millions de cochons, on est 3 millions de Bretons. Et ces 9 millions de cochons sont en partie nourris par du soja qui arrive d'Amazonie et qui fait... qui est responsable en partie de cette Amazonie qui brûle. Donc on a tous aussi des choix politiques à faire, en fait.
Tout à fait, oui, effectivement. Et l'étude en question était très intéressante. Hein. C'était l'alliance entre une écologue et puis une sociologue, si je me rappelle bien, hein, ou une psychologue américaine. Et effectivement, hein, on est passé de Bambi à Cars. Hein, et donc, l'univers des enfants s'est restreint. Hein, évidemment, c'est la loi du marché. Hein. Walt Disney, en fait, a besoin d'avoir des petits-enfants dans les salles de cinéma ou devant les télévisions. Hein, et ça paye plus aujourd'hui de montrer des voitures que de montrer des animaux. Alors cela dit, même quand on montre des animaux, quelquefois, comme j'en ai parlé, hein, quelquefois on oublie que ceux qu'on voit vivants sur l'écran sont en train de disparaître dans la nature et donc la situation est compliquée. Effectivement, il y a des choix politiques à faire. Alors c'est très compliqué en tant que scientifique voilà, d'entrer dans ce domaine-là. Hein. Évidemment, comme tout un chacun, un scientifique, c'est un citoyen. Et donc, comme mon collègue Franck Courchamp le disait, il a deux cartes dans la manche comme tout citoyen, la carte d'électeur et la carte de crédit. Tout autant qu'on est, on peut les utiliser. Maintenant, moi, j'essaye de rester à chaque fois l'exposé scientifique. Hein, j'ai mes opinions comme tout le monde. Et effectivement, les grandes plateformes internationales ont parfaitement diagnostiqué le rôle critique des productions de viande, d'élevage dans la destruction de l'environnement. Hein. On a très vite oublié aujourd'hui, notamment, en fait, que la consommation de viande n'est pas le fait des personnes riches. En France, toutes les études le montrent, y compris les études du ministère de l'Agriculture. Hein. En fait, la consommation de viande est inversement liée au revenu moyen. Parce qu'évidemment, par viande, on n'entend pas forcément une entrepôt de premier choix. Et donc, ce type de production, effectivement, doit arriver à être raisonné. Mais ça suppose une transition, hein, que tous les acteurs, y compris ceux qui gagnent leur vie de cette manière-là, puissent être accompagnés. Et c'est quelque chose qui est évidemment compliqué, quoi. Mais c'est une transition qui est absolument indispensable, ça c'est évident.